Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
L'attaque des armées congolaises ougandaises contre les ADF se poursuit depuis mardi à Koglo, Kolo et Banjou dans Mambasa en Ituri. Objectif est déloger les sites qu'ils occupent et d'où ils planifient des attaques. Les sources sur place parlent d'une dizaine de morts depuis mardi. Et puis c'est SOS en faveur d'au moins 420 enfants orphelins en âge scolaire qui ne vont pas à l'école dans l'agglomération lacustre de Kiavinyonge au Nord Kivu. La plateforme universelle des orphelinats de Boutembo qui les encadre appelle les personnes de bonne volonté à l'aide. Vous l'avez sans doute constaté, Radio Kapi vient de lancer une nouvelle grille de programme ce lundi. Comment se présente-t-elle? Qu'est-ce qui change? Jean-Marc Matoki, directeur de programme de Radio Kapi, est notre invité. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal parle de l'Ituri. Les forces conjointes FRDC et UPDF mènent depuis mardi des opérations de traque contre les rebelles des ADF dans les localités de Kolo Kolo et Banjou Banjou, situées en profondeur de la forêt en territoire de Mambasa. Cette offensive intervient après une attaque des ADF contre une position de l'armée et a eu une dizaine de morts, rapportent des sources concordantes. L'objectif de ces opérations en cours depuis un mois est de démanteler les bastions de ces rebelles dans la chefferie de Babila à Bakwanza, cela afin de permettre la population de vaquer librement à ses occupations. Ces informations d'Isaac Crémo sont rendues ici par Jude Mister Bilanda.
Cela fait plusieurs mois que les rebelles de ADF ont établi leur bastion en profondeur de la forêt dans la chefferie de Babila Bakwanza à environ 100 km au sud-ouest de Bounia. Depuis ces positions, ils planifient et lancent des attaques contre les populations vers les localités de Lolwa et Mungamba, le long de la route nationale numéro 4 sur l'axe Komanda Mambasa, déclare la société civile locale. Les forces de l'ordre figurent également parmi leurs cibles. Par ailleurs, ces rebelles imposent des taxes illégales aux agriculteurs pour accéder à leurs champs. Face à la persistance de ces menaces, les forces conjointes FRDC-UPDF ont lancé depuis près d'un mois des opérations de traque qui ont infligé des lourdes pertes aux ADF, dont nombreux sont désormais en débandade selon des sources sécuritaires. Après cette défaite, un groupe de rebelles en fuite a attaqué mardi une position des FRDC dans les villages des Kolo Kolo et Banjou Banjou. Les bilans provisoires fait état d'une dizaine de militaires des FRDC tués ainsi que leur campement incendié, ajoute les mêmes sources. Et notre groupe de militaires est tombé mercredi dans une embuscade des ADF dans la même région. Les sources officielles n'ont pas encore communiqué sur ces incidents. L'armée a depuis renforcé ses effectifs et intensifié les opérations de traque de l'ennemi.
Au Kasaï-Oriental, la commune de Bipemba est de nouveau secouée par des actes de criminalité. La nuit de jeudi à vendredi, un policier et son enfant de moins de 10 ans ont été grièvement blessés par balle par des hommes armés et en tenue de la police. Le bourgmestre de cette commune souhaite que le nombre des agents de police soit revu à la hausse pour sécuriser ses administrés. Explication Esther Dalafina.
Au quartier Kankelenga, un autre incident a failli tourner au drame. Un bandit armé a été neutralisé par les éléments de la police de proximité. Ces épisodes viennent s'ajouter à une série de cas de criminalité qui alimentent la peur dans cette municipalité. Madame Chizubu, vendeuse de légumes, dénonce la recrudescence des attaques et exprime son inquiétude face à l'absence de protection suffisante.
Ici chez nous, ne dormons pas depuis la période des festivités. Nous passons la nuit dehors pour avoir la possibilité de crier. Nous souffrons. Dès que les bandits font irruption dans une maison, ils passent à tabac des propriétaires. Ils tuent et emportent tous les biens de valeur. Nous ne pouvons plus lever le ton. C'est difficile.
La bourgmestre de la commune, Irène Balaï, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle à un renforcement des effectifs policiers afin de mieux sécuriser ses administrés. Esther Dalafina Boujoumaï, Radio Kapi.
Au moins 420 enfants orphelins en âge scolaire ne vont pas à l'école dans l'agglomération lacustre de Kiavinyonge. Nous sommes à 100 km au sud-est de la ville de Beni, dans le Nord Kivu. C'est la plateforme universelle des orphelinats de Boutembo qui alerte sur cette situation. Elle affirme qu'il s'agit des enfants qui ont perdu leurs parents dans différents naufrages sur le lac Édouard, mais aussi dans la guerre en territoire de Rutshuru. Cette plateforme de défense des droits des enfants orphelins demande aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Deogracias Somoindo, responsable de cette plateforme, explique la situation au téléphone de Marc Maroufimbo.
Nous avons trouvé un chiffre de 420 enfants en âge scolaire enregistrés auprès de nos amis encadreurs qui sont déjà installés à Kiavinyonge. C'est un nombre vraiment trop élevé. Les causes qui ont été déclarées par les autochtones humiliés, ce n'est que les naufrages et d'autres qui ont été capturés et tués au niveau des frontières avec le pays voisin, l'Ouganda, dans le lac. Alors, cela fait vraiment un chiffre élevé des enfants orphelins dans l'agglomération de Kiavinyonge. Les écoles publiques n'ont pas la capacité d'accueillir ce nombre d'enfants. Ils n'ont pas de fournitures scolaires. Ils ne trouvent même pas des uniformes à cela. Alors, nous appelons à tout un chacun de nous venir en aide pour nous aider à subvenir à certaines difficultés que courent nos enfants orphelins dans l'agglomération de Kiavinyonge.
En parlant de tout petit justement, l'ONG Congo Hope Initiative CHI plaide pour une meilleure protection des droits de l'enfant, en particulier ceux en conflit avec la loi. En partenariat avec la fondation Doudou Famba, elle a mobilisé samedi les 10 enfants, les autorités ainsi que des ONG de la société civile pour réfléchir autour du thème de la 17e année de la promulgation de la loi portant protection des enfants, enjeux, défis et perspectives. L'événement a eu lieu à l'esplanade de la mairie de Kisangani. Ces informations de Jacques Mokonkole sont rendues par Jean Gandou.
Pour Congo Hope Initiative, cette commémoration est une occasion de rappeler que la RDC dispose d'un cadre juridique important en matière de protection de l'enfant. Cependant, le défi reste son application concrète, souligne Trésor Grison Kakumbi, son coordonnateur.
On doit protéger l'enfant, garantir la santé, l'éducation, la sécurité sociale, l'alimentation, pour qu'on ait les citoyens qu'ils sont. Aux autorités, que chaque acteur politique de ces pays, que chaque citoyen agisse pour que les enfants grandissent comme ils se devaient.
Partenaire de Congo Hope Initiative, la fondation de Doufamba a indiqué que son engagement est d'accompagner les enfants en conflit avec la loi à travers des actions sociales concrètes, comme le déclare son coordonnateur Trésor Batamba Aouka.
Pensons organiser avec l'ONG que nous avions appuyé un programme d'accompagnement pour ceux qui peuvent encore rentrer à l'école. Nous verrons ce que nous pouvons faire avec eux. Et mais pour les autres, nous allons aussi créer un programme d'accompagnement et de formation des métiers afin que ces enfants-là puissent se prendre en charge et diminuer cet engouement des enfants dans la rue.
Pour sa part, le député national Fontaine Mangala insiste sur la responsabilité collective dans la garantie des droits fondamentaux de l'enfant conformément aux lois en vigueur en RDC.
Province du Haut-Katanga, la mairie de Lubumbashi prend des mesures interdisant l'accès au centre-ville des conducteurs de motos et des tricycles œuvrant dans les transports en commun et même des privés. C'est pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation au centre-ville. La maire intérimaire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chansa, a sillonné jeudi plusieurs artères de la ville pour sensibiliser les usagers de la route au respect strict des limites fixées par la mairie. Le point avec vous, Paula Munanga.
La mairie de Lubumbashi fixe les limites que les conducteurs des motos et tricycles ne peuvent pas franchir. Au nord de la ville, il y a l'avenue Kambov, au sud, l'avenue Likasi et Sendwe, à l'est de la ville, l'arrêt Grand Bus Tunnel vers la chaussée Félix Tshisekedi, et à l'ouest, l'avenue Kamanyola, chaussée Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Adoula. La maire à l'intérim de Lubumbashi demande aux motocyclistes de respecter les limites fixées pour exercer leurs activités. Joyce Tunda Chansa les sensibilise d'assainir leur lieu de travail. Comme je vous ai dit, vous êtes des responsables. Vous avez été sensibilisés à deux ou trois reprises. Vous respectez les limites fixées sans que la police ne vous y contraigne. Si vous voyez un motard qui prend cette direction qui est interdite, vous l'appréhendez et vous l'amenez à la mairie. Surveillez-vous vous-même. Et puis, à cet endroit où vous travaillez, vous allez faire des travaux d'assainissement chaque jour. Constituez des équipes et cherchez des brosses pour rendre cet endroit salubre. Signalons que ce n'est pas pour la première fois que la mairie de Lubumbashi interdit aux conducteurs des motos et des tricycles d'accéder au centre-ville. Mais à chaque fois, ils passent outre cette mesure. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a reçu samedi un lot de 70 tonnes d'équipements d'assainissement destinés aux diverses communes de la capitale. Ce lot comprend des balais, bêches, brouettes, souffleurs pour le nettoyage des principales artères. Il s'agit des équipements offerts par l'usine Kintoko, un partenaire stratégique de la ville. Ils seront répartis à travers les 24 communes de Kinshasa afin de renforcer les les opérations de salubrité publique et d'améliorer durablement le cadre de vie des Kinois. Saluant ce geste, le gouverneur Bumba a réaffirmé sa détermination à faire de Kinshasa une ville saine, propre et attrayante. Il a également encouragé les habitants à soutenir les initiatives de l'exécutif provincial, notamment à travers le salon spécial organisé chaque samedi dans le but d'améliorer l'image de la capitale congolaise. Et puis cette bonne nouvelle, dans le Kasaï central, la ville de Chimbulu est électrifiée pour la première fois de son existence. Les premières lampes se sont allumées en début de la semaine dernière grâce à l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER. D'après Alexis Omulomba, coordonnateur du pôle des ANSER pour le Grand Kasaï, ce projet a été rendu possible grâce au financement du gouvernement congolais. Deux centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 200 kW desservent la ville en électricité. Et en dehors de l'éclairage public, les ménages en sont aussi bénéficiaires. Alexis Moulomba explique ce qu'il en est au micro d'André Katende Ngalamouloumé.
Le projet de la ville de Chimbulu fait partie de ce que nous avions appelé à l'époque le PIP, c'est-à-dire le projet d'investissement prioritaire qui ont été lancés par ANSER dans les Grands Kasaï depuis 2022. Des projets qui sont entièrement financés par l'État congolais, qui consistent à construire des microcentrales photovoltaïques. Le projet en tout pour Chimbulu fait un total de 200 kW. L'éclairage public faisait partie de notre première étape d'implémentation du projet. Et la deuxième phase consistait à finir la construction des centrales, et qui dit centrale dit l'électrification aussi bien des ménages que des activités à usage productif. Je confirme que ce projet tend à apporter l'énergie au sein de ménages qui habitent la ville de Chimbulu, donc la population pourra y bénéficier pour les activités domestiques et voire même les activités à usage productif. Le lancement de la deuxième phase a commencé par éclairer certains bâtiments qui ont bénéficié déjà du courant parce qu'ils avaient mis à jour leurs installations électrique.
Retour en Ituri, de nombreuses femmes et jeunes filles continuent de subir le poids de certaines coutumes, souvent au détriment de leurs droits fondamentaux. Pour décourager ces pratiques, la section genre de la MONUSCO mène depuis jeudi une campagne de sensibilisation à la masculinité positive dans les territoires de Mahagui, situé à environ 165 km au nord de Bounia. L'objectif est de favoriser la transformation des normes sociales négatives qui dévalorisent les femmes et freinent leur participation active à la prise de décision. Isaac Rémo.
Selon les constats dressés par plusieurs organisations de défense des droits humains, certaines coutumes continuent de reléguer les femmes aux seuls travaux ménagers, une situation qui empêche de nombreuses femmes d'exprimer pleinement leurs compétences et de participer aux instances de prise de décision au sein de la communauté. Pour la section du genre de la MONUSCO, cette campagne vise à transformer ces normes négatives afin de promouvoir une société plus équilibrée, fondée sur l'égalité entre l'homme et la femme.
Les coutumes rétrogrades ont beaucoup plus laissé la place de la femme à la cuisine. Comment on saura qu'elle a aussi des idées qui peuvent construire la société? Elle a aussi un apport vraiment significatif à apporter pour le développement même de la société.
De leur côté, certains participants ont reconnu avoir déjà bafoué les droits des femmes et des jeunes filles dans leur vie. Ils se sont engagés à promouvoir ces droits au sein de leur foyer et à sensibiliser d'autres couches de la population. L'un d'eux.
Nous tous qui avions participé à cet atelier, de commencer chacun d'abord chez soi, puis le faire ailleurs. Donc je suis engagé à sensibiliser tout et chacun à la masculinité positive.
L'administrateur du territoire de Mahagui a pour sa part encouragé les administrés à adopter un comportement responsable, gage d'une véritable égalité entre l'homme et la femme. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une pirogue partie de la côte gambienne avec 300 Ouest-Africains à son bord est introuvable plus d'un mois après son départ. L'embarcation qui a pris la direction de l'Espagne a quitté la localité de Jinak en Gambie le 5 décembre vers 19h. Ces derniers jours, plusieurs acteurs de la migration au Sénégal ont donné l'alerte et redoutent un naufrage meurtrier en mer.
L'invité.
Radio Okapi vient de lancer une nouvelle grille de programmes ce lundi 12 janvier 2026. Quels sont les grands changements opérés? Qu'est-ce qui motive cette initiative? Le directeur de programme de Radio Okapi répond à toutes ces questions. Jean-Marc Matouaki s'entretient ici avec Blaise Ndongala.
Bonjour messieurs
Jean-Marc Matwaki.
Bonjour, Blaise Ndongala Mayan.
La Radio Kapi, Radio des Nations Unies, lance une nouvelle grille des programmes. C'est lundi 12 janvier 2026. Qu'est-ce qui motive les lancements de cette nouvelle grille des programmes?
Merci pour la question. La grille des programmes, c'est un peu comme la colonne vertébrale d'un média, que ça soit une radio, une télé, et c'est aussi une dynamique. Les programmes évoluent en fonction des besoins des audiences. Et Radio Kapi, cette année, le 25 février 2026, va totaliser 24 ans d'existence. Donc l'année prochaine, c'est notre 25e année. Alors, pourquoi une nouvelle grille des programmes? C'est parce que les différentes émissions, les différentes chroniques, ainsi que tout ce que nous avons pu proposer à nos auditeurs, nous avons pu avoir un certain retour. Et c'est en fonction de ces retours-là que nous avons pensé redynamiser la grille actuelle. Et j'en profite d'ailleurs, puisque nous sommes encore au mois de janvier, pour présenter nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité et surtout des fidélités à tous nos auditeurs, auditrices et internautes qui continuent à nous faire confiance. Donc,
quels sont les grands changements opérés et pour quel but?
Je commence du côté information, côté news, comme nous avons l'habitude de le dire ici au niveau de la radio. On a revu les horaires de nos journaux en langue nationale. Généralement, les journaux en swahili démarraient à 5h05 heure de Kinshasa. Mais avec cette nouvelle grille, on a essayé un peu de décaler ça un peu plus tôt, c'est-à-dire les journaux en swahili commencent à 4h30 de Kinshasa, plus une heure au centre et à l'est
du pays.
Voilà, les journaux en Tchiluba qui étaient diffusés autrefois à 5h30 passent 30 minutes plus tôt, donc à 5h, et les journaux en Kikongo passent à 5h30. Il n'y a pas de changement du côté journal en Lingala et les blocs Lingala comme on l'appelle ici. Il y a aussi des nouveaux programmes. On a essayer un peu de renforcer les côtés radio-service, c'est-à-dire des programmes pédagogiques qui tendent à répondre à certains besoins. Par exemple, les auditeurs seront habitués à suivre une émission qui s'appelle Emploi et Business. Vous savez, c'est un magazine sur la reconversion professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi sur Radio Kapi. Ce magazine tient...
De combien d'heures?
Un magazine de 55 minutes pour essayer de répondre aux besoins par rapport à l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, si on fait les constats, chaque année, il y a beaucoup d'universités qui déversent sur le marché des diplômés, mais qui parfois, pour s'adapter par rapport au contexte du marché de l'emploi, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que quand on suit certaines offres d'emploi qui passent, on demande aux gens d'avoir un peu plus d'années d'expérience.
Et je connais des amis qui, après avoir fini, ont fait 20 ans, 25 ans, voilà, diplômés, licenciés, voilà, mais ils n'ont jamais travaillé. Alors, quand vous lui demandez d'avoir beaucoup plus d'expérience, vous voyez ce que ça fait?
Justement, ce magazine va tenter de répondre à cette préoccupation, mais aussi parler de cette reconversion professionnelle qui est indispensable pour éviter les taux de chômage dans notre pays. Et renforcer aussi les côtés détente, et l'idée c'est aussi de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, créer des moments de détente, mais aussi en même temps essayer d'offrir aussi du contenu pour informer les gens.
C'est bien de parler d'innovation. Quand on parle Radio Kapi, on voit naturellement ces magazines interactifs phares, notamment Dialogue entre Congolais, au Kapi Service,
Parole
aux auditeurs. Que deviennent-ils?
Ça, c'est notre ADN. Ça peut pas changer. C'est ce qui fait notre identité.
Donc ces magazines gardent leurs heures habituelles.
Ces magazines demeurent. Cependant, il y a quelques ajustements par rapport aux horaires. Au Kapi Service sera désormais diffusé lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h. Parole aux auditeurs passera mardi et jeudi de 9h à 10h, avec rediffusion à 21h bien sûr. Dialogue entre Congolais, pas de changement, sauf on a essayé un peu de rajouter 10 minutes, parce qu'on a reçu beaucoup de plaintes des auditeurs qui disaient, mais pourquoi ne pas accorder une heure à Dialogue entre Congolais? Donc du coup, Dialogue entre Congolais sera diffusé du lundi jusqu'à jeudi, de 19h05 jusqu'à 20h. Et puis les week-ends, il n'y a pas de grands changements à signaler, on aura vraiment du contenu intéressant.
Au Kapi Métissage est toujours là.
Au Kapi Métissage est là, au Kapi Sport est là, grand témoin et grande interview. On a Découverte va passer les après-midi dans un format d'une heure. Et il y a aussi des nouveaux programmes comme au Kapi By Night. Donc ça sera un peu faire vivre un peu l'ambiance qui règne le week-end, tout ça.
Si à l'occasion du lancement de cette nouvelle grille, si on vous demandait d'adresser un petit message aux auditrices, éditeurs et puis internautes de Radio Kapi, que diriez-vous?
Merci de tout cœur pour avoir fait confiance à cette radio que vous aimez depuis plus de 20 ans. Et surtout, merci du fait que vous avez pu vous approprier cette radio. Si cette radio existe, c'est grâce à vous.
Merci à vous, Jean-Marc Matoua, qui vous avez accepté de répondre à nos questions.
Avec merci à toute la direction de la radio et à toutes les équipes qui travaillent pour que cette radio puisse continuer à faire son travail et surtout à offrir le meilleur de ses audiences.
Et avant de terminer, ce message des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC informent l'opinion qu'une de ses unités déployées à Bukama dans la province du Olomami a été attaquée hier par des éléments d'un groupe armé identifié sous l'appellation Mai Mai Zulu. Le bilan provisoire fait état de 4 assaillants tués et 3 blessés. Du côté des FARDC, un militaire a été blessé. La situation a été rapidement maîtrisée par les forces loyalistes. Les forces armées de la RDC rassurent la population de Bukama et ses environs que toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de garantir la sécurité et l'ordre public afin de lui permettre de vaquer librement à ses occupations. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.